très fan de me présenter, mais dans les trucs qui devraient vous parler, j'ai beaucoup aidé la quadrature du net. J'ai notamment fait le mémoire politique, enfin refait le mémoire politique, c'est moi qui l'ai fait la première fois. Je suis dans Neutrinet maintenant, donc un point sur texte internet. Membre de la fédération FDM, sauf qu'on est en Belgique, c'est un petit peu plus dur là-bas. Je suis toujours un paquet de trucs, je développe en Python depuis 2018, j'adore coder. Autrement, je suis dans le réseau belge pour la fonction pour le revenu de base, donc un truc un peu récent. Mais bon, si vous en voulez servir de détails, vous allez sur worlddomination.be, vous avez un nom de domaine quoi. Mais vous allez réduire la page about, il y a beaucoup trop de choses dessus. C'est un peu fin, c'est pas à jour depuis un an, mais si jamais ça vous amuse. Alors, aujourd'hui, ça c'est à peu près le plan de ce que je vais faire. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu faire ça. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi j'ai voulu faire ça. Il y a deux problèmes qui en découlent de pourquoi est-ce que j'ai voulu m'attaquer au refactoring en Python et pourquoi j'ai voulu prendre cette approche-là. Et donc après, je vous montrerai les deux solutions que j'ai eu à ces problèmes-là. Je vous ferai une démo un peu interactive pour vous donner un peu du feeling, à quoi ça ressemble, comment est-ce qu'on peut s'en servir, le genre de choses qu'on peut faire avec, que vous pouvez faire avec. En tout cas, j'espère que normalement, à la fin de la conférence, vous aurez genre à peu près assez d'informations pour si vous voulez utiliser cet outil, ça devrait être suffisant. Vous verrez, tout est documenté. Donc il n'y aura vraiment pas de problème pour ça. Mais je ferai une petite conclusion. Si vous avez des questions de compréhension, n'hésitez pas à m'interrompre. Si c'est des questions qui sont plus des questions genre pourquoi t'as fait ça ou des trucs, je préfère que ce soit après, parce que sinon genre, je pars sur une divagation et les gens ont du mal à suivre. Surtout pendant la démo, n'hésitez pas si vous ne comprenez pas ce que je fais. Je pense aller un peu vite. Même si là, je vais être un peu tranquille. Et juste avant de commencer, donc c'est pour faire des révisions, pour être sûr que tout le monde sache de quoi je parle et qu'on ne soit pas complètement largué. Donc du refactoring, alors, j'espère que tout le monde sait ce que c'est. Mais en gros, c'est. Vous avez du code source. Vous avez du code source et vous avez fait une opération automatisée sur ce code source de modification. Quelque chose que vous fait chier de faire à la main. Vous avez une variable que vous voulez renommer partout. Ou alors vous avez une fonction que vous avez envie de inline. C'est-à-dire que vous avez une fonction qui est appelée à plein d'endroits dans votre code. Et vous trouvez que la fonction ne sert à rien. Vous avez envie de virer cette fonction-là. Et de là où elle était appelée, vous remplacez cet appel par le corps de la fonction que vous venez de virer en renommant les variables. Donc tout ce genre d'opération automatisée. Ça existe beaucoup, ça existe peu dans le monde de Python, ça existe dans le monde de Java et de C#. Alors c'est pas parce que c'est un langage, parce que Python est un langage dynamique, le premier langage qui a fait du refactoring, mais comme un malade, c'est Moto, qui est un langage ultra dynamique. C'est juste que ça n'a jamais pris dans la communauté Python. Il y a quand même des trucs qui existent dans le monde. Moi je connais pas grand monde qui s'en sert énormément, peut-être un peu avec ce qu'il y a dans PyCharm. Et après on va pas mal parler de l'arbre abstrait de syntaxe, donc un AST. Alors en fait, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais quand vous programmez, en fait, ce que vous faites, c'est que vous écrivez une structure d'arbre dans un fichier de texte. C'est vraiment, vous allez écrire des nodes, des nœuds, qui vont avoir des branches, en fait, c'est une structure récursive. Donc, je ne sais pas, vous pouvez voir ici, vous avez une opération égale, qui a deux nœuds, qui a un nœud x et qui a un nœud plus, qui a fait un nouveau deux nœuds, etc. Donc, c'est vraiment une structure d'arbre. Et donc, je vais voir si ça vous parle à peu près à tout le monde, ce genre de truc-là. Normalement, c'est un peu intuitif. C'est le genre de truc qui est utilisé en fait quand vous faites de la compilation, de l'interprétation. C'est la première chose que fait Python. Enfin, c'est Python, c'est vraiment dit le code et transforme ça en arbre et il bosse dessus. Quasiment tout le monde. Je pense que tout le monde fait ça. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de m'attaquer à ce problème? Qu'est-ce qui me faisait chier? En fait, j'ai toujours voulu écrire des codes qui modifiaient du code. Donc, mon code source. C'est légèrement quand vous programmez, vous. Je sais pas si vous allez, mais généralement, moi je programme, je dis, il y a un pattern, il y a quelque chose que j'aimerais pouvoir faire du refactoring avec. Je suis capable de voir dans ma partie de mon code à moi, mon code précis, il y a quelque chose que j'aimerais pouvoir modifier, j'aimerais pouvoir automatiser cette modification, et j'avais pas du tout d'outils pour ça. J'utilise Vim de manière assez avancée, et à partir d'un moment, l'édition texte uniquement seule atteint ses limites, peu importe le nombre de plugins qu'on rajoute. Au début, je me disais, tiens, j'allais programmer ça. Puis en fait, généralement, je sais pas si vous avez posé la même question, généralement, quand tu dis, non, mais je vais écrire du code qui modifie du code, c'est à peu près, non, c'est beaucoup trop dur, ça ne vaut pas la peine, c'est trop compliqué. Vous avez une matrice gigantesque, vous essayez de comprendre quelque chose dans cette matrice. C'est extrêmement compliqué, il y a certains qui rentrent dedans, ça ne vaut pas la peine, vous avez l'impression de faire un code pourri qui ne tient pas la route, quoi. C'est vraiment un truc qui me faisait chier en permanence. Chaque fois que je codais, j'ai dit, il y a ça que j'ai envie de modifier. Si je pouvais revenir brille pour écrire du code, il y a plein de tooling que j'ai voulu faire. Chaque fois, j'avais pas les outils qu'il fallait pour ça. Enfin, j'en avais quelques-uns. J'aurais généré du code. Et puis, ce qui est un petit peu dommage aussi, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui font des outils refactoring, mais c'est quoi, une poignée de gens à peu près cinglés qui vont écrire des IDE. Je sais pas quoi, c'est 1% des développeurs, 0,1% des développeurs qui est capable d'écrire du code qui fait du refactoring. Je trouve que c'est vraiment dommage. En tout cas, moi j'ai envie de pouvoir accéder à ça de manière facile. Et c'est un peu pour ça que je me suis lancé là-dedans. Et juste pour vous donner une idée, essayez de vous projeter, vous dire tiens, j'ai envie de faire du code de refactoring. Généralement, en entrée d'une fonction de refactoring, vous avez votre code, vous avez une position X, une position Y. Et après, vous devez vous démerder. c'est extrêmement compliqué. Donc, en Python, il y a un truc assez génial, c'est qu'on peut taper directement dans l'AST. Donc l'arbre de syntaxe à fait Python, on peut travailler avec. Ce qui est super chouette, on peut bosser, on peut l'utiliser, mais il y a deux problèmes. Le problème, c'est qu'il y a avec perte d'information, c'est-à-dire que quand vous prenez votre code et vous le transformez en AST, il va dégager tout le formatting, il va dégager tous les commentaires. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas reprendre cet AST, le modifier et le retransformer en code source. Ce qui est extrêmement frustrant, parce que vous avez un arbre, ça a du sens, c'est facile de travailler dessus, c'est beaucoup plus simple. Donc il n'y a quasiment rien pour ça, il y a un truc qui est sorti il y a peu de temps que personne ne connaît, qui permet de transformer un AST en code source. Mais ce ne sera pas votre code source à vous identique, vous n'aurez plus de commentaires. Donc ça c'est un gros problème. L'autre problème c'est qu'il a une API complètement hachée. C'est une API comme les parseurs Sphinx. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les parseurs événementiels pour XML. En gros c'est à peu près insupportable à utiliser. C'est hyper performant mais c'est insupportable à utiliser. Donc chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous faites une classe avec plein de fonctions qui vont s'appliquer quand vous allez sur certains nœuds. C'est un truc qui est juste insupportable à utiliser. Vous ne pouvez pas utiliser ça dans un shell. Moi j'ai utilisé dans mon shell, donc ça me frustrait énormément. Juste pour vous donner deux exemples de trucs que j'ai voulu faire. J'ai voulu faire un PyFMT pour formater du code Python sur la PEP8. Alors j'avais commencé avec AST, bon, en plus c'est super rigolo, j'avais surchargé des classes, donc ils vous donnent des classes en fait pour les nœuds. J'avais rajouté, Monkey Patché une méthode à chacune des classes en disant tu dois te formater comme ça. C'était super chouette, j'avais 80% du boulot qui était fait en 200 lignes de code. Puis après j'ai commencé à réaliser qu'il fallait que je fasse un parseur par-dessus, enfin un truc qui livrait un parseur pour essayer de regarder où est-ce qu'il y avait des commentaires, pour essayer de le remettre, donc c'était juste une horreur. J'ai envie de générer du code. Je travaillais beaucoup avec des données, donc je faisais souvent tu as une API qui te forme du JSON. Tu as envie de taper ces données-là dans une base de données en Django par exemple. Alors soit tu fais tout à la main, tu commences à écrire ton modèle, tu fais un script qui tourne, c'est insupportable, mais je me disais, c'est des données, on est capable d'automatiser ça, donc je vais me dire, je fais un script qui lit mon JSON, il infère dessus des modèles, et il écrit automatiquement un script d'importation pour moi. C'était juste insupportable à faire. Je retrouvais à faire des prints pour faire du code, c'était pas quelque chose que tu as envie de faire. Quoi. Et donc ça c'est un peu mon opinion de comment est-ce qu'on en est dans le champ aujourd'hui de la programmation. Donc ça c'est tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Vous avez des éditeurs, vous pouvez tout faire avec un éditeur de texte, mais c'est complètement inefficace. Et en gros, si vous avez la chance, vous avez dans votre refactoring browser 3 ou 4 opérations qui peuvent résoudre quelques problèmes particuliers pour vous. Et il n'y a rien. Tout le reste est complètement vide, on ne peut rien faire avec. Il n'y a pas d'outil qui permet de faire tout ce qui ne tombe pas dans ce que le refactoring browser fait pour vous. Juste pour vous donner en référence, il y a trois possibilités pour faire du refactoring. À ma connaissance en Python aujourd'hui, donc la Basilicule Rickerman que plus personne n'utilise, qui s'appelle Rop aujourd'hui. Alors eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent assez Python pour comprendre du sens, ensuite ils y vont un coup de l'Ajax. C'est un peu immonde. Et il y a PyCharm, alors eux, ils ont fait leur propre parseur à eux en Java. C'était open source il n'y a pas longtemps, j'ai pas eu le courage de regarder dedans. Mais quand j'ai commencé le projet, c'était pas le cas. Donc, ma conclusion, il y a deux problèmes. J'ai pas de AST sans perte d'information et j'ai une API de merde et je veux résoudre ça. Et donc, ça va être un peu, c'est les deux projets que je vais vous montrer maintenant. J'ai surtout parlé de Red Baron, qui est la deuxième partie, qui est la partie la plus intéressante. Je vais aller un petit peu vite sur la première, qui est en fait c'est l'abstraction qui permet de faire du refactoring. Donc, c'est Baron. Baron, c'est quoi? C'est en fait un AST, sauf que lui, il n'y a pas de perte d'information. C'est un AST donc, qui me permet de dire j'ai mon code source, je transforme en arbre et je retransforme cet arbre en code source. J'ai le code source identique, sans modification. C'est-à-dire que je passe d'un problème où je modifie une matrice de caractère géant à un problème où je suis capable de modifier juste une partie de mon arbre et je sais que cette partie de mon arbre uniquement sera modifiée dans mon fichier texte. Ce qui est beaucoup, beaucoup plus cool à faire en fait en pratique en programmation, c'est vraiment plus simple parcourir un arbre parce qu'on sait tous faire ça. Moi je me suis dit que j'allais lui faire sortir du JSON. Donc une structure de données Python serialisable en gestion, donc des listes, des dictionnaires, comme ça tout le monde peut l'utiliser, c'est un truc générique, c'est sympa. Et si vous avez fait un peu de programmation fonctionnelle, on apprend assez vite que les structures de données sont beaucoup plus chouettes que les objets pour ce genre de choses-là, parce qu'elles ne vous cachent rien du tout. Vous avez une structure de données, c'est évident, il n'y a rien qui est caché, il n'y a pas de méthode entre les deux que vous utilisez, c'est clean. Donc juste pour vous montrer, alors c'est pas hyper intéressant, mais ça ressemble à ça. Ça c'est un helper, vous dire si vous avez 1+1, ça vous donne un truc, ça vous sort un truc, oups, je vais perdre chaque fois. Ça vous sort un truc comme ça. Donc vous comprendrez à peu près pourquoi. Désolé. Pourquoi en fait j'ai fait une abstraction après pour servir de ça? Parce que ça c'est très mignon, mais bon, genre personne n'a envie d'utiliser ça. Quoi. Alors je vous donne ça, je dis vous pouvez modifier ça, ça modifiera votre code, pas très sexy. En tout cas, ça c'est à peu près ce que j'ai l'impression de faire. On commence à remplir cette barre-là, on commence à rentrer là-dedans avec ce genre d'outil-là, on commence à dire oui, maintenant on peut commencer à écrire du code qui modifie du code. Ça reste très inefficace, hein, mais on peut le faire. Et je me suis dit, Ah oui, l'état du projet, on cherche plus dans le boulot, je savais pas par ça avant, j'ai commencé à apprendre, il y a plein de tests. C'était assez pas mal, donc ça marche sur le top 100 des packages Python de PyPI. Il y a des utilities, c'est entièrement documenté si jamais vous voulez travailler avec ça, mais moi je ne vous conseille vraiment pas d'y toucher, sauf si vous avez envie de faire un truc vraiment très très bas niveau. Alors, maintenant la partie beaucoup plus intéressante. C'est la partie pour laquelle je vous présente, c'est ça que je vous conseille d'utiliser si jamais c'est le genre de choses que vous avez envie de faire. Donc je vais juste vous expliquer vite fait le plan. Donc bah, comment c'est. Donc ça c'est vraiment comment ça marche. Hein. Donc, quels sont les principes de base qu'il y a derrière, comment faire des queries, comment faire des modifications de cet arbre et comment travailler sur des listes de choses. C'est à peu près le plan de ce qu'on va parler tout de suite. Donc basiquement c'est de la bio sur des barons. C'est comme Beautiful Soup. Beautiful Soup, vous lui prenez une structure de données qui est de HTML, ça vous fait des objets dessus. Ici vous avez une structure de données qui est comme du JSON, ça vous fait des objets dessus, c'est exactement pareil. Ces pensées peuvent être utilisées par des humains. J'ai fait beaucoup d'efforts pour que ce soit très intuitif à utiliser. Ça fait faire tous les trucs chiants pour vous. Je vais vous montrer après. Il y a plein de détails bas niveau quand vous modifiez du code auquel vous n'avez pas du tout envie de toucher. C'est assez puissant et expressif pour que vous soyez capable de vous en servir directement dans ePython pour refactorer votre code. C'est la démonstration que je vous ferai après à la fin. Alors l'appli est vraiment super simple. J'ai dit, je vais faire un truc. Comme Beautiful Soup, vous lui filez un string qui contient de l'HTML et ça vous renvoie un string. Exactement pareil ici. Bête, simple. Il n'y a pas de truc gâché en plus. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Alors oui, ça c'est un truc qui est... C'est lisible ça? À peu près. Okay. Donc ça c'est le principe qui est super chouette dans Beautiful Soup, c'est qu'ils ont surchargé ROPR, donc qui est le code qui est attaché quand vous devez faire le rendu d'un objet. Et donc dans Beautiful Soup, quand vous lui dites voici de l'HTML, dis-moi, enfin fais une query dessus, il va dire bah, voici l'HTML que j'ai sélectionné. Donc quand vous utilisez Beautiful Soup dans un shell, vous avez directement sur quoi vous travaillez. Vous avez un retour direct, immédiat. Pour moi c'est vraiment la killer feature de cette query. Aucune des autres librairies n'a implémenté. Enfin, LXML, je sais qu'il ne fait pas, PyQuery, je ne le faisais pas à la fois que j'ai engueulé GitHub. Mais bon, enfin, pour moi, c'est vraiment un principe qui est génial, et donc je me suis dit que j'allais faire exactement pareil. En plus, j'ai fait le malin, j'ai utilisé Pygmy, donc ça fait la belle coloration syntaxique, mignon tout plein. Donc juste ce truc ici, vous voyez 0 et 1, en fait, c'est simplement parce que quand vous avez un fichier code source, vous avez plusieurs nœuds de votre AST, et donc le 0 et 1, c'est les index, en fait. Donc vous connaissez directement l'index, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut, vous savez sur quoi vous avez fait une sélection. Il est auto-descriptif, donc juste sur la 0, 1, ici. Ouais. En fait, vous allez vous demander à un moment qu'est-ce qu'il y a comme attribut sur ces objets, comment est-ce que c'est derrière. Je me suis dit que j'allais vous filer un outil. Alors il fait un petit peu plus au début, c'est point help. Il vous dit en gros qu'est-ce qu'il y a qui est caché en dessous. Il vous dit ici, donc le truc qui est juste au-dessus, vous êtes sur une node de type while qui pointe vers une autre node à l'attribut test, donc le premier truc en haut, qui pointe vers une node de type int, donc le 42 qui est là-haut. Et ensuite, donc else, parce que vous pouvez rajouter un else. Au while statement, si personne ne fait ça, et value qui est en fait à ce moment-là une liste, vous voyez, il y a un petit star qui est en haut. Et il y a un dernier type de node à nouveau qui est des strings. En fait, c'est vraiment genre un mapping par rapport au JSON. Quoi. Vous avez un objet JSON qui pointe vers d'autres objets JSON, ou une liste d'objets JSON, ou des strings. Donc, c'est-à-dire, vraiment, vous avez ça, vous avez ce genre de trucs-là, vous êtes au courant sur quoi vous matchez, vous avez toute la description, vous n'avez pas besoin d'aller lire la documentation pour vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce putain de node? Vous avez tout directement. J'ai fait des queries, donc les queries c'est exactement comme Beautiful Soup, vous avez .find et .find et all qui prennent ici, vous voyez donc des descriptifs, donc juste peut-être pour vous montrer ici, vous voyez ici whyNot dit qu'il y a des identifiants, donc c'est while, donc c'est le truc que vous devez mettre ici dans le find, donc vous faites find, je veux le while, vous trouvez le premier while, find all, tous les while, vous pouvez donner n'importe quel attribut, lui dire je veux que cet attribut match sur ces caractéristiques là. Vous avez des syntaxes courtes pour des globs, donc c'est comme des trucs comme pour le shell, des regex, vous pouvez passer des lambda. Vous pouvez faire des trucs assez avancés. Normalement, c'est suffisamment puissant pour tout ce que vous voulez faire. Il y a des syntaxes courtes, comme dans Beautiful Soup. Vous pouvez faire point .name au lieu de faire find name, vous pouvez faire un call au lieu de faire un find all, c'est exactement pareil pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment très puissant. Normalement, ça ne devrait pas vous bloquer, c'est normalement assez intuitif pour ce que vous voulez. Et donc à nouveau, quand vous faites une query, bah, ça vous montre ce que vous avez sélectionné. Modification. Alors, il est arrivé le problème où je me suis dit, bon, c'est très facile de faire des queries, puis après j'ai envie de modifier mon arbre. La logique de base, vous allez dire que je dois vous dire que vous devez utiliser les mêmes objets que j'utilise et utiliser leur constructeur. Comme vous voyez, c'est un petit peu dégueulasse en fait. C'est un petit peu immonde, personne n'a envie de faire ça. Je pense que personne n'a compris en fait que FaceCom. Et je me suis dit, bah, c'est en fait un peu con. Vous savez déjà tous programmer en Python, je ne vais pas vous demander de rapprendre quelque chose d'autre. Je veux dire, bah, si vous voulez modifier cette note-là, donc il y a une assignation. Vous voulez changer que l'assignation de la partie droite, la valeur, soit sur autre chose, ben vous passez simplement le code Python dans un string. Et il va prendre ça, il va le reparser, il va le réinjecter. Vous avez besoin de rien apprendre de plus. Vous pouvez modifier l'ensemble de votre arbre en passant du code Python. Rien besoin d'apprendre. Ça marche pour toutes les nodes, tous les cas possibles. C'est beaucoup testé. Ça fait pareil aussi. Donc ça, juste le petit exemple de trucs avancés. En général, quand les gens pensent à ce genre de bout de code et qu'on leur dit bah, c'est quoi le corps, le bloc de code qui est possédé par la fonction bar, la méthode bar là-haut, clairement les gens pensent que c'est la ligne qui passe. Ce qui est logique, ce qui est intuitif. C'est ça en Python. Quand vous modifiez du code, en fait, c'est un peu plus dégueulasse, c'est tout ça. Ça commence après les deux points et ça finit, et c'est responsable de l'indentation du bloc suivant. C'est un truc que vous n'avez pas envie d'avoir à gérer. Donc j'ai fait plein de code, j'ai fait plein de magie pour que vous pouvez lui passer tout et n'importe quoi, ça va marcher. Ça va avoir ça va rajouter des trucs à l'avant, ça va rajouter des trucs à l'arrière. Ça rajoute même, genre, vous voulez rajouter dans le while, vous rajoutez un else, vous voulez passer un string qui contient un else, il va le mettre à monter comme il faut, il va vraiment gérer tout pour vous. Parce que je vais trop vite. Et donc le dernier problème que j'ai cherché à résoudre pour vous aussi, c'est pour un programme, pour un développeur Python, une liste comme ça, en fait, ça contient trois éléments. C'est pour un développeur Python, c'est A, B et C. Quand vous modifiez du code source, en vérité, c'est cinq éléments, parce que vous devez tenir compte des virgules. Ça, à nouveau, c'est très chiant. Personne n'a envie de faire ça. Donc j'ai fait une abstraction par-dessus qui gère ça pour vous. Donc vous pouvez utiliser en fait la même API que les listes Python, donc append, extend, pop, remove, tout. En fait j'ai implémenté l'API, j'ai pas implémenté sort et reverse, parce que ça me semblait pas vraiment avoir du sens ici. Mais à nouveau, donc il va gérer pour vous, il va rajouter les virgules quand il faut, il va les retirer quand il faut, etc. Il va détecter si votre liste est indentée, pour pas péter l'indentation. La détection des types d'indentation n'est pas encore tout à fait au point, donc ça marche pour certains cas, ça marche pas pour tous les cas. Donc ça marche pour les trucs qui sont séparés par des virgules, ça marche pour les trucs qui sont séparés par des points, donc ce qu'on appelle un atom trailer, si vous voulez savoir, dans la grammaire de Python. Donc A.B.C avec des parenthèses. C'est assez intelligent pour mettre deux points avant les parenthèses, devant ce qu'on appelle un get item, donc les crochets. Ça marche pour les corps de fonctions, donc tout ce qui est séparé par des retours à la ligne. Et un dernier truc que j'ai rajouté, donc ça, vous allez voir après, des petits helpers, donc il y a des méthodes qui sont map, apply, filter. Donc map et filter, c'est comme ceux de Python, sauf qu'en fait, ils vont vous retourner une liste de barrel barbon, donc il réimplémente toutes les applis qu'il y a avant pour vous. Apply, c'est comme map, sauf qu'au lieu de vous envoyer le résultat d'application du call, donc de la fonction que vous avez passée, ça renvoie la note sur lequel le call a été appliqué. Donc next, previous, donc vous avez une liste suivant les parents. Enfin, tous les trucs auxquels vous attendez. Le dernier important, c'est le replace, qui permet de faire du remplacement in place. Donc vous avez une node, et vous n'avez pas envie de remonter sur le parent pour dire, en fait, sur ce parent-là, bah, tu vas attribuer ce string-là. Vous pouvez dire directement sur cette node, voici un string, parse-le et remplace-toi tout de même par ce string. Ça, c'est des trucs qui sont liés avec la pratique, le genre de trucs dont j'avais besoin quand je connais. Avec quelques exemples, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est si vous voulez remplacer tous les names, en fait. Donc le name est un attribut de la gramme. Ce n'est pas tous les identifiants, c'est tous les names. Donc une variable, le nom d'une variable, c'est un name. Si vous voulez remplacer tous les names par qui match qui ont une certaine valeur par un autre, ça ressemble à ça. Il y a un peu plus de travail à faire en fait si vous voulez remplacer tout ce qui est définition de fonction, les définitions de classe, etc. Mais juste pour vous montrer, c'est vraiment très simple. Vous chopez tous les names et vous les remplacez. Vous voulez installer une Django application. Donc pour ceux qui font du Django, on a un fichier qui s'appelle seedings.py qui contient une liste avec des strings qui correspondent aux applications. Donc bah, ici, vous tapez dessus, vous dites bah, je veux en fait l'assignation, la partie de gauche s'appelle installed app. Et bah, je rajoute simplement un string, donc ici c'est la Django Debug Toolbar, et puis ok, pas de problème, j'ai détecté l'indentation de cette liste-là. Je rajoute le truc dedans, je rajoute la virgule pour vous. Une ligne. En une ligne, vous faites ça. Donc il y a un truc assez chouette qui s'appelle Line Profiler qu'on peut lancer sur votre projet qui veut dire bah, sur chacune des lignes combien de temps ça a pris. C'est assez chiant parce qu'il faut taper un décorateur dessus. Bah, sur chacune des fonctions, vous voulez profiler. Donc si vous voulez profiler l'ensemble des fonctions, au niveau 0, donc au root de votre projet, c'est pour ça qu'il y a un recursive equal false. Bah, vous faites ça. À nouveau, bah, c'est une ligne. Si vous voulez les virer, c'est pareil, une ligne. Vous pouvez faire un script comme ça qui chope votre code et qui dit ah, bah, je tape le truc, je change le profiler, je reviens le décorateur. Ça, c'est des exemples de la BV, un type qui est venu me voir qui m'a dit bah, j'ai des tests, j'ai envie de les refactorer, j'ai envie de dégager tous mes prints site mode, j'ai envie d'avoir logger pour debug. Bah, j'ai eu ça en deux lignes. Le premier, c'est pour les prints avec juste un seul attribut. Le deuxième, c'est quand on a une série d'attributs. Donc le code qui est un peu là-bas en bas à droite est un peu dégueulasse parce que je voulais faire ça sur une seule ligne, mais vraiment c'est. En nouveau, c'est assez simple. C'est tous les trucs que vous pouvez faire interactivement dans ePython si vous n'êtes pas sûr, vous testez un peu. Et voilà, donc là, j'espère qu'en fait, ça c'est un peu mon espoir, qu'on arrive à peu près là, qu'on commence à arriver à monter en efficacité, qu'on arrive à monter en efficacité, qu'on arrive à être capable de faire à peu près tout ce qu'on veut avec maintenant. Je ne suis pas encore sûr entièrement où on soit arrivé là, mais c'est un peu ce que j'espère faire, choper tout le terrain, avoir une librairie qui a une librairie vraiment de référence, si vous voulez modifier, pas écrire du code qui modifie du code. Il y a 1200 tests dessus, donc c'était fait entièrement en TDD, c'est entièrement documenté, j'ai des exemples partout. Il y a un tutoriel, en plus je me suis fait écrire un tutoriel ce dimanche, c'est insupportable d'écrire un tutoriel. Salut tout. J'espère que ce sera la librairie de référence, en tout cas si vous voulez écrire du code qui modifie du code. Donc pas une librairie qui est un refactoring browser comme pop, mais une librairie qui est entre l'éditeur et le refactoring browser. C'est encore un peu rugueux, donc ça fait, en fait tout ce que je viens de vous montrer, ça fait à peu près une semaine ou deux que j'ai réussi à finir ça. Donc ça, j'arrive en fait à avoir, donc il manquait des listes, en fait avant c'est un peu chiant de travailler sur un projet comme ça, on travaille sur des listes. Donc là j'ai enfin arrivé à un état où on peut s'en servir, on peut commencer à faire des choses assez chouettes. Par contre il n'a pas été battle tested, donc c'est-à-dire si vous avez, si vous en servez c'est possible que vous arrivez dans des bugs sur tous les exploits auxquels j'ai pas pensé. Normalement il n'y a rien de gros, le corps est vraiment stable. Ça devrait remplir pour 80% des cas que vous allez avoir. Si vous voulez modifier du code, ça devrait remplir ces cas-là. La seule point important c'est que je ne fais pas ce qu'on appelle de l'analyse statique. Donc l'analyse statique c'est que vous avez du code et vous voulez essayer d'inférer sur ce code un sens qui aurait si jamais il était exécuté. Donc être capable de dire ce name à cet endroit-là, mais en fait il est déclaré plus haut, puis il est modifié ici. J'ai pas envie de faire ça parce que des gens font déjà ça. Il y a Astroid, qui est en fait la librairie qui est utilisée par PyLint, que vous connaissez sûrement, que je vois en fait. Je vais commencer à regarder à quoi ça ressemble. Il y a Rob aussi qui fait pareil. Je ne sais pas lequel des deux je vais prendre. Rob a la documentation, Astroid dans la passe, ça fait très chier. Mais bon, j'ai réussi à faire tout ça. J'intégrerai soit RedBaron dans un, soit juste intégrer l'autre dans RedBaron, je verrai bien. Mais pour l'instant, je n'en fais pas, je ne compte pas du tout en faire. Parce que les gens l'ont déjà fait pour moi, je n'ai pas envie de réinventer la roue pour ça. Juste pour vous montrer la documentation, vous allez voir, il y a plein d'exemples dedans. C'est des exemples qui sont exécutés à la compilation de la documentation. Donc les exemples que vous voyez, en fait, c'est du vrai code qui est tourné. Donc vous allez voir, il y a des exemples pour absolument tout. Et ce n'est pas du vrai code, donc c'est garanti que les exemples que vous voyez, ce sera le même code pour vous. Bon, sauf si j'ai bouché un truc sur Master, je vais. Ça peut jouer. Donc c'est très intéressant, ça permet en fait de casser sa documentation. C'est une grande innovation. Et avant de faire la conclusion, je vais essayer de faire une démo. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Pas si on décale. Si vous avez déjà des questions de compréhension, puis-je aller. Sinon, je vais essayer
de faire
un film. Il te reste 20 minutes. 20 minutes. Oh, c'est bien. Si je pars trop vite. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose? Là, j'ai vu. J'ai pas besoin de mettre en fond blanc, ça y va? Par contre, ça me fait un peu chier. Voilà. J'ai écrit un agenda qui est un peu spécial, c'est un agenda pour paresseux. C'est en fait, il y a plein d'organisations en Belgique qui font plein d'événements, mais c'est assez chiant d'aller voir sur tous leurs sites. Donc j'ai écrit un agenda qui va chercher en fait l'information sur tous les sites et qui les met sur un seul endroit. Dans ce cadre-là, j'avais deux fichiers au début. J'avais un fichier qui était rempli de fonctions qui ne sont pas très intéressantes à regarder, mais donc fonctions par source. Donc Whitespace, c'est un hackerspace là-bas, WebRandis aussi, tout genre de trucs là. Et je me suis dit, en fait, c'est mignon d'avoir une couleur par chacune des sources. Comme ça, tu as un agenda, tu peux les différencier. Lorsque j'avais fait au début, j'avais fait un fichier qui s'appelait colors.py, qui était une structure de données qui avait cette information-là. Je me suis dit, en fait, c'est très chiant, tu as deux fichiers à éditer. Donc, je me suis dit, j'aimerais bien en fait, refactorer ça et j'aimerais bien pouvoir taper ces informations-là dans des décorateurs sur ces fonctions-là. Et donc, je me suis dit, alors, ça tombait bien, parce que j'avais fait un outil pour ça, justement. Parce que vous voyez, il y a vraiment un pattern générique. Vous avez plein de fonctions, vous avez plein de trucs. C'est extrêmement facile de travailler dessus. C'est le genre de use case, vous pouvez vous faire ça à la main avec un éditeur, vous pointe chaque fil, vous écrivez une macro, un truc comme ça, c'est extrêmement insupportable. Ou alors vous pouvez faire tout ça vous-même à la main, ce qui n'est pas du tout motivant, ce que personne n'a envie de faire. Et donc c'est un peu pour ça que j'ai écrit ce genre d'outil, donc je vais vous montrer cet exemple. Donc ça c'est le fichier, donc je charge dans RedBaron le fichier qui contient les fonctions, c'est sur celui-là que j'ai travaillé. Alors l'autre ça m'arrange bien franchement, parce que l'autre c'est un fichier Python, où je peux simplement importer le truc. Python le fait pour moi, donc Ça, c'est les structures de données que j'avais. Ça, c'est mon fichier avec les fonctions envoyées, une belle coloration syntaxique. Donc, le but du jeu, ça va être en fait de rajouter des décorateurs sur chacune des fonctions. Ce qu'on fait dans le cas, c'est qu'on dit, bah, écoute, j'aimerais choper toutes mes fonctions. Donc là, j'ai fait cette ligne, et donc je vais peut-être éviter d'utiliser des raccourcis, comme ça, ça sera plus facile pour vous. Donc, find all, donc je cherche toutes les fonctions. Donc, vous voyez, en fait, généralement, les attributs, enfin, les noms pour les trucs. J'ai essayé de choper le keyword évident, genre une fonction c'est def, on va essayer tout def, un while c'est while. Il y a des trucs qui sont un petit peu plus compliqués, genre bah, un atom trailer, je pense que personne connaît ça, mais bon, j'avais pas appelé ça, genre une liste avec des points. Donc ça faudra peut-être un peu apprendre, vous pouvez utiliser F, ça vous montrera à chaque fois. C'est assez simple pour vous. Donc je chope toutes les fonctions. Alors ici c'est pas très pratique, donc ce que je fais c'est, je vais juste dire, je veux qu'il m'affiche le nom des fonctions, comme ça je peux avoir une idée de la gueule des fonctions que j'ai. À nouveau, donc c'est vraiment le genre d'outil que vous utilisez dans du code que vous connaissez à vous, c'est pas vraiment pour un outil générique. Donc ici, moi je connais mon code, je sais que ça commence à partir d'ici. L'ensemble des fonctions qui m'intéressent, bah, je dis, bah, j'ai pas de problème, je peux commencer grâce à des Python, commencer à sélectionner à partir d'ici. Toutes les fonctions. Moi ce que j'aime bien faire à partir de ce moment-là, c'est de me dire, bah, on va travailler sur un seul élément à la fois. Donc c'est la première fonction, et on va se dire, bah écoute, je vais commencer un peu bidouille avec ça, et puis après je pourrais faire une boucle qui fera l'opération pour tout le monde. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est le nom, et de voir en fait que dans colors.py, donc les couleurs, j'ai un nom qui match. Donc vous l'avez la chance, j'avais fait mon code qui correspondait à ça, donc ici, vous voyez, j'ai ces fonctions-là. Alors, je vous montre juste ici, parce qu'il est là, ce que j'ai envie de mettre comme décorateur, c'est ça. Je sais pas, ça, c'est complètement illisible en fait. Si je code ici, voilà, ça devrait être plus... facile à voir. Donc c'est juste le décorateur, il y a une source d'acron color, etc. Donc je suis allé i ici, qui est ma fonction. J'ai des informations ici. Donc en gros, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie que les décorateurs, donc ces décorateurs avec un s, on peut mettre plusieurs décorateurs sur une fonction, correspondent à. Alors je vais d'abord peut-être formater string à côté, ce sera un peu plus simple. Even source, quote, pourcentage s. Color pourcentage s. Si je vais trop vite, on m'arrête. Normalement, je sais. Ah oui, en plus, je peux vraiment faire le doigt parce que j'ai un dictionnaire, donc je sais que je peux utiliser cette truc-là. Je ne sais pas si vous connaissez cette syntaxe, ça permet simplement de dire, parce que je lui passe un dictionnaire et il va regarder les clés qui correspondent au truc entre parenthèses. Et voilà. Et donc, ça, ça me donne le décorateur qui m'intéresse, qui est formaté comme il faut. Donc, si je fais i.decorators. Est égal à 1. Qu'est-ce que j'ai foutu comme cochonnerie? Quoi est-ce qu'il y a? Ah oui, effectivement. Et donc, voilà, j'ai un dégradage en fonction. Et donc, vous voyez. Ok, ça doit être ma barre. Problème de barbu. Alors, donc, on a tous les trucs ici qui nous intéressent. On va juste changer un truc, c'est qu'on va éviter de prendre le premier, parce que le premier on l'a déjà modifié en fait. Donc à nouveau, ça c'est toutes les fonctions sur lesquelles je viens de travailler. Donc for i in, hop, on lui repasse le code qu'on a ici. Qu'est-ce que j'ai foutu? Et voilà, vraiment sur toutes les fonctions, vous avez votre décorateur, ça l'a déjà. Et puis en plus, on peut s'amuser un peu parce que j'avais fait des fonctions déjà en disant bah écoute, ça me fait chier. Genre, j'utilisais. Il y a plein de gens qui sont sur meetup.com où j'ai tapé un truc générique, enfin, ça pour moi. J'ai juste besoin de lui taper un nom pour moi et lui le nom qui est dans leur URL. Écoute, on va faire pareil, hein, ils sont dans color.py aussi. Ils sont tous là, donc le Ruby machin. Bon, je ne suis pas hyper fan de Ruby, mais ils ont des bandes pour alors, je sais que tous les noms en fait ici, donc c'est. Donc ça c'est, il faudra un peu, donc ça c'est un peu le problème, c'est qu'il faudra apprendre un peu à utiliser, à comprendre comment ça marche. Mais si vous utilisez help, vous cherchez un peu, normalement assez intuitivement vous allez comprendre comment ça marche. Donc je veux tous les noms qui sont génériques meetup. Donc je vais à nouveau faire un point find all, pas trop que vous embrouillez. Je veux tous les noms où la valeur du nom est égale à générique meetup. J'ai tous les trucs. À nouveau donc je fais point map, donc c'est comme le map de Python. Je veux avoir le parent, Et donc je regarde un peu, à nouveau c'est mon code que je connais, donc ça permet vraiment de faire le lien, c'est un des patterns GenTech, c'est le code à moi que je connais, que j'ai envie, sur lequel j'ai envie de travailler. Donc on voit que c'est effectivement ceux-là sur lesquels moi j'ai envie de travailler, donc je connais mon code, je veux du coup. C'est là-dessus que j'ai envie de bosser. Donc bah, à nouveau, on en prend un. On va travailler dessus. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la valeur du string. Donc je suis générique, alors celui-là, le help, en fait, il a une profondeur par défaut pour ne pas vous faire un truc gigantesque. Donc je suis là-dedans, je me dis, ah, je suis sur un atom trailer, mais ça je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce truc-là. Donc il me dit ici, il faut que je base sur un string. Ça tombe bien, c'est sur le premier string. Donc je peux faire if.find string, donc soit les raccourcis. Donc j'ai mon string en value. Alors ça, c'est le truc à savoir. J'ai besoin de garder la gueule du string que vous avez donné, donc c'est un string dans un string. C'est un petit peu bête, donc il faut faire un eval dessus. Vous faites pas ça sur des sources que vous ne trustez pas. Vraiment. Ça marche? Color. Est-ce que j'ai mon truc dans color ou dans mes données? Ouais, j'ai un truc dans mes données. Et donc, bah, à nouveau, qu'est-ce que cette fois-ci, ce qu'on veut faire, c'est qu'on est ici. Ici, en fait, donc je connais un peu le truc, ça s'appelle une call node, en fait, le truc entre parenthèses, c'est un appel. Et ce que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie de rajouter background color égale quelque chose, text color égale quelque chose là-dessus. Donc dans les histoires, il y a un truc spécial qui s'appelle extend, donc c'est comme faire un append sur une. Enfin, ça vaut du coup du passer une liste et faire taper la liste à la fin du truc. Rien de fabuleux. Donc j'ai envie de faire extend en rajoutant ces deux informations-là. Donc bah, à nouveau, on peut commencer à travailler là-dessus. Est-ce que j'en ai un peu avec ce. Donc, pourcentage S. Alors par contre, je ne sais pas pour faire comme l'autre fois parce qu'il me faut une liste. Ouais. C'est un petit peu ça comment je fais ça. Donc ici, j'ai envie de choper mon color. Je sais pas, vous continuez à comprendre comme ça ou ça? Alors ici, il faut que je lui file donc le background. Et ici, il faut que je lui file le foreground. Et j'ai pas fait de bêtises. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ça, c'est les deux éléments, donc deux strings qui contiennent les deux éléments qu'on va rajouter à notre call. Donc i.call.extend. Donc oui, i.find. Et là, je peux lui passer ce gros truc pas beau. Et voilà, c'est fait. Et donc maintenant, on peut revenir sur ce qui est ici. Tu dis à chaque quelque chose. Parce que ici, on peut faire fort. Donc on ne prend pas le premier. Donc on dégage le premier parce qu'on vient de travailler dessus. Donc ça, c'est pas ma façon de travailler. Hein. C'est peut-être pas ce qui vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé d'y Python. Et donc, c'est fait. Et si vous voulez vraiment qu'on s'amuse, il y a aussi le JSON API qui est pareil. Alors j'aurais pu matcher sur le JSON API sur les deux au début. Là, il faut juste que...
Ah. Pour l'instant, ça n'a pas écrit dans le fichier.
Ça n'a pas écrit dans le fichier, pour l'instant. J'ai pas du tout synchronisation dans le fichier, c'est vraiment... tu lui fais un string, tu donnes un string. Après, j'ai fait une librairie qui est par-dessus. Puis en fait, encore en bêta, j'avais travaillé sur le truc rigolant. Normalement, ça fait JSON API. En fait, je finis mon exemple et je te réponds parce que je pense qu'on va passer. On va passer aux questions de la conclusion, mais je te réponds quand même. Donc voilà, ça fait JSON API aussi. Donc là, en fait, effectivement, si tu veux écrire dans ton fichier, tu as dumps qui t'envoie le string. Et donc là, tu rouvres ton fichier et tu l'écris dedans. J'ai évité de bouger. Donc, j'ai fini ma démonstration. Donc, j'ai fait un truc par-dessus que j'ai pas encore fini, qui va frapper ça, pour les système, etc. Je disais PyFS. Ou pas le système, un des deux qui permet de mapper sur l'ensemble des fichiers. Tu ne peux pas faire un truc générique. Genre, tu pourras éditer ton code dans Python, dans SSH, si tu veux. Ou en Fuse, tout ce que tu veux. Mais pour l'instant, j'ai déjà un peu beaucoup de boulot avec le reste. Pas de questions sur la démo? Ok. Donc, la conclusion, en fait, c'est. À la fois, je suis content d'être arrivé jusque-là. C'était un petit peu beaucoup de boulot. À la fois, je suis pas entièrement convaincu de ce que j'ai réussi à faire. Parce que je sais pas exactement ce que c'est, j'ai un peu l'impression que, enfin, mon but, plus j'avançais dessus, plus j'ai réalisé que je faisais ce que qu'on peut appeler un changement de paradigme, pour utiliser des grands mots. C'est-à-dire passer d'un état où aujourd'hui écrire du code qui modifie du code, c'est un truc extrêmement chiant que personne n'a envie de faire, qui ne vaut pas la peine, qui est trop compliqué, à bah, effectivement je peux le faire. Je peux le faire, c'est-à-dire maintenant je peux commencer à réfléchir sur du code, écrire du code qui modifie du code. Tout le monde, en tout cas j'espère que un beaucoup plus grand nombre de développeurs sera aujourd'hui capable de faire ça, aura ça à sa disposition comme outil. Donc je ne sais pas exactement ce que ça va donner. Je sais pas exactement ce que les gens vont faire, si ça va adopter ou si je suis complètement dans mon monde et que moi qui m'a jamais utilisé ça. J'ai quand même aussi à parler à des gens que ça emballait. Ah, bon, c'est des gens un peu semblés, donc je sais pas ce que ça veut dire. Si vous connaissez pas cette personne, Ken Beck, si vous connaissez pas cette personne, en fait, c'est un nageur de chèvres. C'est aussi le type qui a écrit le livre qui s'appelle Extreme Programming Explained. Donc c'est un peu un vieux Javier qui est un peu genre. À l'époque on appelait ça l'extreme programming, aujourd'hui on appelait ça Jagile. Je sais pas s'ils ont changé un nouveau nom bullshit entre temps, mais c'était un peu près ce truc-là. Lui, basiquement, explique qu'il aimerait bien avoir un éditeur où on peut directement modifier l'AST. J'avais rencontré une personne que peut-être vous connaissez qui s'appelle Meredith Patterson, qui est connue un peu dans les milieux biopunk, hacker et sécurité, qui me disait en gros, elle adore le parsing, elle me disait en gros. Ton truc, c'est un peu une réinvention d'un feed de programmation qui s'appelle le Projectional Editing ou Structured Editing. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Genre, il y a une page Wikipédia où il n'y a même pas de section, tellement personne ne connaît ce truc-là. Mais en gros, c'est les éditeurs de texte, vous n'avez plus le concept de fichier, vous êtes complètement abstrait, vous travaillez directement sur la représentation en arbre. Et apparemment, j'aurais fait ça, en prenant une approche complètement différente d'après elle. Je ne sais pas ce que ça veut dire, en tout cas, elle était très emballée par ça. Et j'ai un pote qui m'a dit, en fait, qui était un peu bourré. Il m'a expliqué, en gros, tu es en train de réinventer ED. Alors, je sais pas s'il y a des gens ici qui connaissent ED. En fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît pas ED? C'est le premier éditeur de texte qui a jamais été fait et qui était un petit peu déstabilisant par rapport à aujourd'hui. C'était l'éditeur, en fait, où c'était trop chiant de rafraîchir l'écran. Donc, en fait, on montrait même pas le texte. On disait ED pour un fichier, tu fais OK, il y a autant de bytes dedans. Et après, tu dis, bah écoute, affiche-moi la ligne de temps. Ok, bah, c'est la ligne de temps. Tu fais une subtraction sur cette ligne de temps, enfin une modification. Donc c'est un truc qu'en fait tu fais des courriers sur ton fichier texte. Et lui il m'a dit, bah, en fait t'es en train de réinventer AED, mais tu fais des courriers sur l'AST de ton fichier. Donc voilà, je sais pas très bien ce que j'ai fait, moi je suis assez content là où j'en suis arrivé. J'espère que ça peut vous intéresser, que ça peut résoudre des problèmes pour vous, avec ce genre d'outils que vous pouvez commencer à utiliser. J'ai fait beaucoup d'efforts pour que ce soit très accessible, j'ai fait toute la documentation, c'est du code source, tout est sur GitHub, tout est sur ReadDoc, les deux outils. Vous pouvez me contacter, il y a même un chaîne IRC. On n'est pas encore beaucoup. Voilà. Je pense que j'arrive à la fin de mon temps. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais.
J'en ai deux. La première, c'est Python 2, Python 3.
Alors,
il y a... 7.3.3.4.
Le code tourne sous Python 2 et Python 3. Le parseur ne gère que Python 2. Donc, si tu fais, genre, si tu n'utilises pas les nouveautés de langue, de syntaxe de Python 3, ça marche. En fait, alors pour la petite astuce, des arbres sans de, un truc comme ça, un arbre sans perte d'information, il y en a plus ou moins un qui existait en fait déjà dans Python, qui a été fait par Guido, qui s'appelle lib2do3, qui en fait le truc est derrière to-do-free, le truc de conversion. Sauf que ce gars n'a fait aucune publicité pour ça, il a envoyé un mail sur une liste en 2006 avec une liste des cordelles de Python. Et sur la page de lib2do3, il y a sur une ligne qui dit en fait, si vous voulez utiliser ça pour faire du refactoring, ça marche. Ça, c'est dans to-do-free, et en fait, en dessous, il y a lib2do3, la documentation, c'est un truc warning. Le code, l'API peut changer. Donc, à peu près la documentation qu'il a faite. J'ai passé des mois en fait, à chercher si des gens avaient fait ça avant moi. J'étais assez nerveux de découvrir il y a des mois en fait, que Guido a fait ça avant moi. Et donc, je vais probablement ditcher mon parseur. En fait, le truc est tout en bas, donc t'arrêtes pas non qu'il sort du JSON, mais le truc en dessous qui fait le parsing, je vais le virer, je vais passer dessus l'API tout au free qui lui gère en fait, Python 2 et Python 3.
Et donc, la deuxième question, c'est tu peux t'en servir pour modifier les commentaires?
Ouais. C'est un élément de syntaxe du langage qui s'appelle common. Donc c'est en fait un peu spécial les commentaires. Dans quasiment l'entièreté des cas, ils sont cachés sur une note endline, donc sur la note de retour à la ligne, parce qu'en fait ils ne sont pas prévus dans la grammaire de Python. Donc j'étais obligé de trouver une astuce pour les planquer dans un plan. Et la seule fois où ils ne sont pas cachés là-dessus, c'est quand tu as un commentaire qui est le premier élément du fichier, parce que tu n'as pas de endline. Et tu peux utiliser ça pour modifier les commentaires. Donc tu obtiendras un string, ce n'est pas extrêmement intéressant, mais tu peux faire ça. Ouais.
À ce propos des commentaires, est-ce que tu peux modifier un bloc de commentaires de plusieurs lignes pour le reparser qui rentre dans les 80 colonnes?
Bah écoute, oui, c'est pas. Tu peux le faire. Alors moi, j'ai pas de truc spécial pour dire voici un bloc de commentaires. Mais genre l'outil, t'as des dispositions pour ça. L'outil te permet de faire ça, mais il n'y a pas de trucs qui vont te faciliter ce travail-là pour l'instant. Tu vas arriver à un endroit, tu vas devoir dire je veux l'ensemble des deadlines, je veux que sur chacun des deadlines, il y ait un commentaire dans le truc de formatting, et que tu détectes ça comme ça. Et à ce moment-là, tu peux les prendre, tu peux retravailler dessus, virer tous ces deadlines, remplacer ces deadlines par autre chose.
Concrètement, si j'ai par exemple 8 lignes, ce sera 8 comments différentes, enfin 8 endlines et 8 comments.
Ouais.
Et du coup, je peux les concaténer, les passer à travers part, les refaire.
Okay. Ouais, tu peux faire ça. Tu peux à ce moment-là, donc c'est comme si des listes, là tu trouves dans une. Donc les abstractions listes que j'ai fait, que j'appelle les proxy listes. Tu peux utiliser des rangs. Alors c'est comment ? Ça s'appelle set slice en fait. Tu peux lui dire voici un slice et tu remplaces l'ensemble de ce slice par une liste. Et à ce moment-là, tu lui repasserais une liste. C'est l'API list standard qui permet de faire ça. C'est pas très connu, mais c'est possible de faire ça. Ouais ? Ok. Vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous avez tout compris ? Okay. Pas de questions, on s'arrête ici. Écoutez, merci tous pour votre temps.
J'ai pas.